C'est l'année 2002 que je vous propose de revisiter en 5 podcasts. Sommaire du premier épisode. Bye bye les francs, bonjour les euros. Internet qui s'impose dans nos vies. Le speed dating qui débarque en France. Buffalo Grill qui est accusé de vendre de la vache folle. Et des truands qui cherchent à enlever Victoria Beckham.
L'année 2002, on de la raconte sur Europe 1.
L'année 2002 commence par un événement historique. 42 ans après le nouveau franc, place à l'euro. Le 1er janvier 2002 à l'aube, je me souviens très bien être allé retirer mes premiers euros au distributeur. Et pendant ce temps-là sur Europe 1, Arlette Chabot reçoit la présidente de la Commission européenne, Nicole Fontaine.
Aujourd'hui, est-ce vraiment un grand jour, un très grand jour pour l'Europe ?
Oui, vraiment, je le crois, je le ressens comme tel. À minuit cette nuit, eh bien, c'est la première fois que les Européens de 12 pays ont fêté l'arrivée d'une réalisation européenne. Cela ne s'était jamais produit. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une conscience profonde que c'est une des étapes certainement les plus importantes dans l'extraordinaire aventure de près d'un demi-siècle de construction européenne.
À dater du 1er janvier 2002, 6,55 957 égale 1 euro. C'est clair pourtant, mais la présidente de la Commission européenne elle-même reconnaît qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué.
Vous avez un truc pour vous repérer en euros ? Vous êtes déjà dans l'euro ou bien vous avez une petite calculette ? Vous faites du calcul mental ? Comment vous en sortez personnellement ?
J'ai une petite calculette. C'est plus facile de convertir dans un sens que dans l'autre, mais... je crois que je plongerai comme tout le monde, hein, mais je ne suis pas mieux préparé que tout un chacun.
Ce jour-là, le 1er janvier 2002, Europe 1 envoie l'un de ses reporters suivre le Premier ministre Lionel Jospin dans son fief du 18e arrondissement de Paris.
Visiblement détendu et surtout amusé par l'expérience, le Premier ministre s'est glissé dans la peau d'un acheteur lambda, dans son cabas, des fleurs, des marrons, du pain et une bonne bouteille de vin de Bourgogne. Comme beaucoup de Français, Lionel Jospin s'était un peu plus tôt approvisionné en euros auprès d'un distributeur automatique de La Poste, des billets tout neufs de 20 et 10 euros. Les courses pouvaient commencer. Mais comme pour beaucoup de Français, l'apprentissage de l'euro est parfois difficile. Exemple chez ce petit boulanger rue Le Thor.
Vous avez du pain complet ?
Du seigle, oui, c'est bien.
Pain complet, 6,80.
6,80. J'ai récupéré un billet de 5 tout à l'heure, donc je dois pouvoir m'en tirer. Alors, voilà, 7. Ben vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez.
Ah non, c'est ça.
Ah oui, bien sûr. Évidemment, je suis bête, moi, je réfléchis pas.
C'est un vœu, zéro perte.
C'est ça. Alors, je cherche si j'ai 1 euro. Non, j'ai 2. Merci.
Voilà, merci.
Allez, bonne journée.
Lionel Jospin reconnaît bien sûr que le passage à la monnaie unique va demander un temps d'adaptation aux Français. Le temps de traverser la rue pour acheter du vin a suffi, semble-t-il, au Premier ministre pour s'adapter.
Combien ça fait ? En euros, là ?
En euros, à vous dire ça, monsieur.
36,59
euros. 36,59 euros. Alors, 35.
Vous en sortez, quand même.
À peu près. Ouais.
L'arrivée de l'euro en 2002 dans le quotidien des Français se fait progressivement. Du 1er janvier à la mi-février 2002, on peut payer en euros ou en francs. Mais un irréductible Vendéen ne veut pas lâcher. Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, annonce qu'il continuera à utiliser le franc.
J'ai voulu me rendre compte moi-même de ce qu'on appelle, dans une sorte de concert unanime de ce nouvel espéranto, l'euro-enthousiasme. Alors je suis allé acheter une baguette, je suis allé dans plusieurs cafés, je suis allé acheter mon journal, etc. Je n'ai pas rencontré un seul commerçant qui m'ait parlé en euros. Et lorsque j'ai payé en francs et ils m'ont remboursé en francs, sans aucune exception. Et ils m'ont tous dit, ils nous emmerdent. Voilà ce que j'ai entendu. Alors, ce n'est pas un sondage, hein, mais quand on entend l'extraordinaire vague de propagande, tous médias confondus, sur cette nouvelle religion, il est né le divin euro, eh ben moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'être un provocateur. J'ai le sentiment d'être le porte-parole d'une majorité silencieuse de gens qui ont l'impression désagréable de se sentir étrangers dans leur propre pays.
Ça n'est pas un sondage, vient de dire De Villiers. Pas faux.
Parce qu'en réalité, les Français qui ont tous reçu un kit euro, soit une pochette de 15,24 € équivalente à 100 francs, n'ont qu'une idée, s'en servir. Comme dans ce bar de Lyon.
Là, c'est la première journée, ça se passe relativement bien. La plupart des personnes payent en euros. Hein. Je pense qu'ils sont allés au distributeur dès hier ou cette nuit ou ce matin. Bon, avec leur petit kit, ils se sont amusés avec les pièces. Alors on entend tout. Tiens, on dirait des pièces en chocolat, des billets de Monopoly. Des... Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pièces. On tourne avec des 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes, plus une gamme de billets assez large aussi. Donc pour l'instant, les clients, ils sont comme nous, ils sont un peu perdus. On passe un petit peu de temps avec eux. On répète souvent un peu les mêmes choses. Voilà, ça c'est une pièce de cents. On peut dire cents, on peut dire centimes. Alors, on leur dit qu'on est quand même autorisé aussi à rendre des francs, même s'il est préférable de rendre des euros. Enfin, on leur explique ce que la loi de finances nous a expliqué aussi. Quoi. Le fait que ce soit en euros, on a l'impression que tout de suite, il faudrait multiplier par un 6,55 et quelques, et que le client, il a besoin d'être assisté là-dedans. Quoi.
Le lancement de l'euro a été plutôt réussi. Et du coup, le ministre de l'économie, Laurent Fabius, se pavane chez Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.
Comment vous interprétez-vous, là où vous êtes, c'est-à-dire à Bercy, et vous qui avez préparé avec d'autres depuis peut-être un an ou un an et demi.
Un an et demi, oui.
Un an et demi, cette arrivée de l'euro. Comment vous interprétez cette précipitation des Français, soit à se débarrasser du franc, soit à acquérir les nouveaux euros?
Oh ben, j'explique ça assez simplement. On a fait une énorme campagne pour préparer l'euro, l'euro pratique, au 1er janvier. Il arrive. Et c'est un grand succès. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens se disent ben, il faut passer en euros complètement. Donc, si j'ai encore des francs, je vais aller les dépenser immédiatement. Voilà ce qui explique cette rapidité. Mais je veux rappeler quand même la règle, c'est-à-dire qu'on a du temps. Hein. On a jusqu'au 17 février pour la double circulation. Et puis, pour changer ces francs, on a jusqu'au mois de juin et on aura même plusieurs années ensuite.
Donc, tout va bien. Mais une inquiétude pointe avec l'euro. Est-ce que les prix ne vont pas augmenter ?
L'euro, au contraire, doit conduire à terme à une baisse des prix, parce que l'euro va renforcer la concurrence à partir du moment... Je prends l'exemple d'une voiture, par exemple. Là, si vous achetez une Renault, vous pouvez l'acheter en Espagne, en France, etc. Et les prix vont pouvoir être comparés facilement, puisqu'ils sont exprimés dans la même monnaie. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura une pression à la concurrence sur les prix, et il faut éviter que... À très court terme, on profite de l'euro, certains profitent de l'euro pour augmenter les prix, donc il faut faire attention.
Pour éviter la tentation, au début, au moment du passage à la monnaie unique, les grands de la distribution et leurs fournisseurs bloquent les prix. Mais ça dure, quoi, 5 mois ? Pas plus.
Cette période prend fin ce soir. Dès demain, il va falloir s'attendre à des augmentations, plus 5% en moyenne. Sentiment de Marie-Jeanne Husset, c'est la directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs.
C'est d'ailleurs assez curieux ce cœur des distributeurs qui, comme s'ils voulaient nous préparer à ces augmentations et puis se dédouaner à l'avance pour dire, vous verrez bien, c'est pas nous, c'est les gros méchants, ce sont les fournisseurs.
Oui, parce que 5% d'augmentation, c'est quand même plus que l'inflation.
Ah, c'est beaucoup, c'est quand même, surtout sur des produits de grande consommation, nous observons le prix de 210 produits dans 14 familles qu'on prenne vraiment des produits, du lait, du beurre, du café, etc., des produits d'entretien. Donc des augmentations de la sorte, c'est quand même énorme, donc nous verrons bien.
Et ça n'est que le début, parce qu'après ce passage à l'euro, beaucoup de monde continuera d'avoir l'étrange impression que tout augmente, ma pauvre Lucette.
À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi.
D'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle.
Comment dit ton bonjour? Je ne sais plus. Je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, mes mots doux de velours, je ne crie plus. Et le
C'était Christina Marocco et Marc Lavoine avec leur succès de 2002, J'ai tout oublié.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
2002, c'était il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas non plus d'ailleurs de smartphone. Un téléphone en 2002, ça sert à appeler, à recevoir des appels et à envoyer des SMS. Point. Et les SMS, on peut pas en envoyer autant qu'on veut. Hein. En 2002, pas question de surfer sur Internet via son téléphone. Il faut forcément passer par un ordinateur. Et l'ordinateur à l'époque, ça rame. Hein. Il n'y a pas encore de haut débit. Et pourtant, 6 millions de foyers sont déjà connectés, 25% de la population. Et parmi les sites les plus fréquentés, surprise, un site politique. Celui d'Alain Madelin, candidat à l'élection présidentielle.
Opération séduction d'Alain Madelin en direction des jeunes sur Internet. Le président de Démocratie libérale a répondu aux questions des internautes sur son propre site pendant 48 heures d'affilée. Un véritable marathon. Il a même donné un numéro pour recevoir des textos. Et beaucoup de jeunes se sont manifestés, se félicite le candidat à la présidentielle.
J'aurais presque tendance à dire que c'est le plus grand débat politique qui ait jamais été organisé, puisque nous avons eu 700 000 visites émanant essentiellement des jeunes. Je crois que c'est un formidable outil de démocratie. On ne peut pas mentir, on ne peut pas pratiquer la langue de bois. On est obligé de répondre aux vraies questions que les gens se posent. J'ai donné mon numéro de texto et j'ai déjà reçu des milliers de textos. Et j'y réponds par SMS, mais aussi je réponds parfois directement au téléphone. Et les gens sont très surpris, les jeunes sont très surpris de m'avoir directement au téléphone.
Bon. En même temps, Alain Madelin est pour une réforme de la légalisation du cannabis. Voilà peut-être la raison de son succès auprès des jeunes.
Il y a plein de questions sur le cannabis. Et vous discutez, vous les appelez, vous leur dites « qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?» Et là, ils sont embarrassés parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils disent pas que la dépénalisation, c'est la solution. Ils se sentent bien que c'est... Mais ils voudraient qu'on en parle. Ils sont bourrés de questions, bourrés d'idées. Et j'ai le sentiment qu'il y a là... le moyen d'une vraie rencontre avec les hommes politiques.
Toujours sur Internet, en 2002, eBay est le géant du commerce en ligne. Et eBay propose des choses étonnantes. Par exemple, cette Ferrari vendue aux enchères, prix de départ 1 euro.
Sur le site, on ne voit qu'elle. Une ligne d'annonce et beaucoup de rêves dans un coin de l'écran. Ferrari Testarossa, prix de départ 1 euro. La belle a bientôt 10 ans et seulement 125 km au compteur. Juste quelques tours de piste d'essai à sa sortie de l'usine en Italie, car rarissime, depuis, elle n'a jamais roulé. Son ancien propriétaire, un milliardaire extravagant, l'avait achetée sur un coup de tête, mais n'avait pas eu envie de la sortir du garage.
C'est le vendeur de voitures de luxe, Franco Lembo, qui a eu l'idée de lancer ses enchères à 1 euro. Parce qu'il a tout de suite compris qu'Internet offrait une meilleure publicité qu'une annonce dans le canard du coin.
On arrive à toucher une clientèle européenne, à la différence d'une petite annonce sur papier, classique, etc. Et bon, là, on sent un peu des sentiers battus. Dans les premières heures, il y a toujours quelques drôles qui s'amusent à faire des enchères farfelues. Mais au bout de quelques jours, tout ça se tasse et on a vraiment les clients intéressés qui restent là. Et charge à nous de les recontacter et de réactiver la chose, quoi.
Joli coup, puisque la Ferrari partira pour 155 000 euros. 2002, c'est aussi le boom des locations de vacances sur Internet.
Grâce à Internet, les agents immobiliers de la FNAIM réalisent plus de locations parce que la visite aujourd'hui du bien sur Internet est largement facilitée. Donc il y a beaucoup moins d'interrogations chez le consommateur et nous en sommes très satisfaits puisque ça facilite notre relation avec notre client. Et notre intérêt, c'est que justement cette relation soit apaisée, ce qui n'était pas toujours le cas, il faut le dire honnêtement, dans le passé.
Les nombreuses photos des biens proposés en ligne sécurisent les clients qui risquent moins d'être déçus à l'arrivée. Et les associations de consommateurs notent d'ailleurs l'absence de plaintes suite à des locations prévisitées sur Internet. Mais la caractéristique du web, c'est aussi qu'il ne connaît pas de frontières et la clientèle étrangère surfe assidûment sur les sites immobiliers français, surtout depuis l'arrivée de l'euro qui rend la comparaison des prix immédiate pour les Européens.
En 2002, on peut tout acheter et tout vendre sur Internet.
Et bien sûr, on peut déjà trouver l'amour grâce au site Mythique, qui met en contact des célibataires.
Olivia et Yann se sont rencontrés sur Internet. Après quelques semaines d'échanges électroniques, ils se sont donné rendez-vous et leur passion virtuelle s'est transformée en relation amoureuse.
Qu'est-ce que vous recherchiez, monsieur, sur Internet ?
Grand amour, hein, comme tout le monde.
Internet, c'est rapide, c'est instantané, je veux dire, on peut se répondre très vite. On a un très grand choix de personnes. Bien sûr, on a toujours peur de tomber sur des malades ou des détraqués, mais faut savoir être prudent.
L'année 2002, on de la traconte sur Europe 1.
En 2002, chercher l'amour via une agence matrimoniale, c'est pour les vieux ou les timides, maladifs. C'est dépassé, quoi. Bien sûr, il y a Internet, mais encore faut-il avoir une connexion. Alors en 2002, les plus téméraires franchissent le pas grâce à un nouveau concept qui arrive tout droit d'Amérique, le speed dating.
Drag Génération 2002 prenait un grand espace, des âmes seules, de la musique, du papier, un stylo, collait des numéros sur les célibataires et puis de temps en temps établissait le contact.
Messieurs, s'il vous plaît, notez vite les numéros, il va y avoir changement de partenaire.
Le speed dating est né 3 ans plus tôt aux États-Unis. Et figurez-vous que c'est un rabbin qui en a eu l'idée. Il voulait faciliter les rencontres entre les jeunes de sa communauté, casser la routine des grandes villes, métro, boulot, dodo. Alors il a inventé ce jeu.
Lors de ces soirées de speed dating, en français rendez-vous rapide, les règles du jeu sont simples. Chaque participant va rencontrer en tête-à-tête 7 autres personnes du sexe opposé, chacune pendant 7 minutes, le tout au rythme du gong, pas une seconde à perdre.
Je parle quand même le gong, c'est ça ?
Je sais pas.
7 minutes, ça permet tout à fait de savoir si on a une affinité avec les gens. On ne sait pas si c'est la personne avec qui on va passer le reste de sa vie. Ce serait vous mentir que de vous dire ça. Mais par contre, ça permet clairement de savoir si c'est une personne qu'on peut avoir envie de revoir.
Au printemps 2002, pour participer au premier speed dating, il faut en général débourser une 40aine d'euros. Même si parfois ça inclut une boisson. Elle s'est pas donnée, hein. Et pourtant, ça cartonne. D'abord à Paris, où c'est bien connu, la proportion des célibataires est plus nombreuse qu'ailleurs.
Après chaque entretien, le couperet tombe. Sur leur journal de bord, les participants inscrivent s'ils désirent ou non revoir leur nouvelle rencontre.
Il y a des filles qui m'ont plu, une journaliste, très mignonne, et une autre demoiselle aussi. D'ailleurs, j'ai noté dans mes indications, j'ai marqué un ange passe.
Un ange qui pour l'instant est uniquement parisien, mais dès septembre prochain, les plus grandes villes de province accueilleront à leur tour ces jeux de l'amour et du hasard.
Parmi ces villes, Strasbourg, où deux jeunes start-upers, Ronald et Laurent, surfent sur l'engouement parisien.
Je savais que ça n'existait pas sur Strasbourg, donc ça m'a donné l'idée de monter ça sur Strasbourg. Et donc je suis parti sur Paris pour participer à des soirées, pour voir un petit peu l'organisation. Et puis voilà, ça s'est fait très rapidement.
Aujourd'hui, on connaît les bars et les endroits de chaque ville. Il est vrai que toujours trop de musique trop forte, les endroits sont bondés. Donc même si on sort le soir, même si effectivement on connaît du monde, on n'a peut-être pas le loisir et le temps de communiquer. Et le speed dating est un concept en plus innovant par rapport à ça. C'est complètement ludique. Je pense que c'est pour ça que ça prend beaucoup, énormément.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens ne viennent pas tous au speed dating pour rencontrer l'âme sœur ou pour un coup d'un soir. Les gens cherchent surtout à rompre leur solitude.
Si je suis là ce soir, c'est surtout par curiosité, pour le jeu et pour passer une bonne soirée, pour rigoler.
Séduire est un art, tout est question de feeling. Soit il passe, soit il ne passe pas.
Est-ce que tu as des envies? Quelles sont tes passions? Voilà, j'aimerais savoir le maximum des choses sur ta personne.
C'est un entretien professionnel.
Non, pas encore.
Importé des États-Unis, ce nouveau concept de rencontre a du succès en France. Il semble coller à une époque où tout va de plus en plus vite.
C'est peut-être un phénomène de société, les gens n'ont pas forcément le temps de faire des rencontres, donc ils utilisent ce type de système pour arriver, je pense, à rencontrer l'âme sœur, entre guillemets.
Écoutez bien ce chiffre, en 2002, 70% des célibataires français en pincent pour le speed dating. Et parfois, ça marche.
Les deux premières, super.
Les deux, ouais, la première, j'ai plutôt accroché, la deuxième, un peu moins.
Au final, sur les 7 garçons que j'ai rencontrés, je souhaiterais en revoir deux.
Entre les hommes et les femmes, les critères ne sont pas toujours les mêmes.
C'est vrai que souvent les garçons marquent beaucoup plus de noms, alors peut-être pour être sûr au moins d'avoir un ou deux numéros de téléphone, ou peut-être qu'ils sont tout simplement moins exigeants que les filles.
Si le choix est réciproque, le contact téléphonique est établi entre les participants, pour le meilleur ou pour le pire.
Le speed dating cartonne, et du coup les agences patrimoniales classiques tirent la langue. Elles tentent de sauver leur peau.
Le concept est totalement différent. Dans une agence matrimoniale, vous allez rencontrer une conseillère qui va vous écouter, qui va vous proposer des rencontres qui correspondent à ce que vous êtes, à ce que vous recherchez, et surtout avec des personnes qui sont libres et motivées pour une relation sérieuse et durable. Dans le cas du speed dating, ce sont des rencontres qui sont superficielles et totalement aléatoires. Je dirais que c'est quelque chose qui correspond parfaitement à notre société actuelle, qui est une société de consommation, hein, donc on va avoir le maximum de personnes en un minimum de temps. Honnêtement, je pense qu'en 7 minutes, vous avez plus de risques de passer à côté de l'âme sœur que de chance de la trouver.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
C'était Carla Bruni, l'ancienne mannequin devenue chanteuse, avec son titre de 2002, Quelqu'un m'a dit.
L'année 2002, on de la raconte sur Europe 1.
À la fin de l'année 2002, un scandale frappe la chaîne de restauration française Buffalo Grill, spécialiste, vous le savez, de la viande grillée. En décembre 2002, elle est accusée d'homicide involontaire. Quatre de ses clients seraient morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie provoquée par la consommation de viande contaminée par la vache folle. Normalement, en France, ça ne peut pas arriver. L'épidémie de vache folle est limitée aux îles britanniques et l'importation chez nous est interdite. Mais la justice soupçonne Buffalo Grill d'avoir proposé cette viande britannique malgré l'interdiction.
Les responsables ont été placés en garde à vue. Personne ne répond aux attaques d'homicide involontaire. Aucun communiqué. Un silence total dont Buffalo Grill pourrait ne jamais se remettre, assure Yves Jean Bumerlin, le vice-président d'EuroRSCG Corporate, gère ses crises pour les plus grosses entreprises françaises. Mais là, pour ce spécialiste, Buffalo est vraiment mal parti.
C'est une perte d'image sèche et brutale. Du jour au lendemain, le sentiment pour le consommateur d'être trahi par le restaurant qu'il fréquente. C'est d'autant plus grave qu'il y a eu la crise de la vache folle, une première perte de confiance. On m'a dit il y a 2 ans, il peut y avoir des dangers avec le bœuf. Si je suis consommateur de Buffalo Grill, j'ai écouté ce que m'a dit Buffalo Grill, qui m'a dit « je trace mon bœuf, il vient d'Argentine ou il vient d'un autre endroit du monde, il est sûr ». Et puis j'apprends brutalement qu'il y avait du bœuf anglais chez Buffalo Grill. Je n'ai même pas envie de vérifier si cette histoire est vraie ou fausse. Je perds brutalement confiance, j'ai l'impression de trahison.
Et pourtant, à l'issue de sa garde à vue, le fondateur de Buffalo Grill, Christian Picard, jure qu'il n'a jamais proposé de viande anglaise.
Il y a eu des propos diffamatoires, et d'ailleurs nous allons porter plainte dès lundi pour diffamation, parce que des gens se sont permis de tenir des propos à des fins personnelles contre une entreprise de 6 000 employés et mettre en danger 6 000 emploi. Mais ce qui est tout à fait étonnant dans cette affaire, c'est que l'avocat de la partie civile qui défend les familles des victimes a écrit et reconnaît que en aucun cas scientifiquement Buffalo Grill ne pouvait être impliqué dans la mort de ses victimes. Ce qui est très grave, c'est que dans cette accusation de soi-disant importation de viande d'Angleterre, non seulement Buffalo Grill est entaché, mais aussi toute la filiale bovine française, les producteurs, les agriculteurs, avec lesquels, bien entendu, nous sommes entièrement solidaires, puisque là, il s'agit de diffamation qui ne touche pas seulement notre entreprise, mais l'ensemble d'une corporation.
En quelques jours, l'empire Buffalo Grill s'effondre, la fréquentation chute de 40%. Pour tenter de freiner la chute, le président du directoire de Buffalo Grill se dit prêt à ressortir les vieilles factures.
Au moment de la crise de la vache folle en 96 et au moment où l'embargo a été mis en place, nous avons mis une affiche dans nos restaurants qui disait que nous n'avions jamais importé de viande en provenance de Grande-Bretagne. À partir de cette affiche, la DGCCRF, répression des fraudes, nous a dit comment Buffalo Grill, vous dites jamais, alors prouvez-le. Il y a eu une vérification de toutes les factures depuis la création de Buffalo Grill en 1981 jusqu'en 1996 et au cours de cette vérification, il n'a pas été trouvé une seule facture de viande provenant de Grande-Bretagne.
Le 27 décembre 2002, la juge d'instruction ordonne une perquisition au siège du Buffalo Grill dans l'Essonne. Au même moment, un millier de salariés défilent dans les rues de Paris pour soutenir leur PDG.
Comme vous pouvez voir, c'est une ambiance kermesse, on a mis la musique, on est là, il y a un coup dur, il faut serrer les coudes. La manifestation a été faite à la demande de la CGT, bien entendu on a suivi, et le personnel Buffalo Grill ainsi que le personnel des franchisés et les franchisés sont ici présents sur le pavé pour apporter un soutien déjà au président du groupe et ainsi que défendre aussi son pouvoir d'achat et puis surtout redonner confiance à la clientèle qui, elle, j'espère, nous verra sur le pavé et je pense aujourd'hui nous fera confiance et dira oui, Buffalo Grill défend son beefsteak et on commence à croire en eux.
Une solidarité entre salariés, c'est pas très rare, mais une solidarité entre les salariés et la direction, ça l'est déjà plus.
Oui, parce que nous avons entièrement confiance à notre PDG.
L'enquête durera 15 ans et elle se conclura par un non-lieu. Les dirigeants de Buffalo Grill seront lavés de tout soupçon. Mais la marque souffrira longtemps de cet épisode. On estime que le scandale a causé la suppression de 700 emplois.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
C'était Phil de Robbie Williams.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
En 2002, Victoria et David Beckham forment le couple le plus médiatisé d'Angleterre et peut-être même de la planète. David a 27 ans, C'est un footballeur star qui joue dans le club européen du moment, Manchester United. Et il est aussi le capitaine de l'équipe anglaise de football.
I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup finals.
Côté plastique, David est très beau. Il est souriant, il est toujours tiré à quatre épingles. Quant à sa femme, Victoria, elle a 27 ans. C'est une star de la pop musique. Elle est connue pour le succès planétaire de son groupe, les Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Après avoir connu le succès avec les Spice Girls, Victoria Beckham se lance dans une carrière solo. Et elle passe à ce titre chez Thierry Ardisson dans son émission Tout le monde en parle.
Victoria et Beckham, David Beckham, sont un statut d'idole. Vous êtes un peu comme Diana. La presse anglaise aujourd'hui, quand elle met soit vous, soit votre mari, soit les deux en couverture, augmente ses tirages de 20%.
Je pense qu'effectivement, Lady Di était très snob et était vraiment populaire. Mais en fait, c'est parce que mon mari a beaucoup de succès avec le football et je faisais partie des Spice Girls et c'était un groupe extrêmement important. Et évidemment, l'intérêt se magnifie avec ce couple qui se forme.
Vous connaissez Ardisson, hein? Il n'a peur de rien. Alors voilà qu'il ose dire à Victoria que dans la bande, elle était la plus poche, la plus bourgeoise.
Oui, en fait, il y a beaucoup de gens que j'étais la personne qui avait le look un peu le plus snob avec ses hauts talons, mais j'ai fait beaucoup plus de choses, j'ai écrit un album, et donc en fait, je suis très occupée.
Ouais.
Mais évidemment, je vais au shopping, mais pas autant qu'on le dit.
En 2002, le couple Beckham est très populaire et il est aussi très riche. Et forcément, ça attire les convoitises. Le 3 novembre 2002, la presse révèle qu'une bande de truands a failli enlever Victoria Beckham.
C'est un tabloïd à sensation qui a révélé toute l'affaire. L'un de ses journalistes avait réussi à infiltrer le groupe de ravisseurs. L'affaire prend des proportions considérables ce matin. Stéphanie Coudurier, vous êtes à Londres.
Oui, effectivement, ce qui est très marquant, c'est l'ampleur qu'a pris cette affaire d'enlèvement ici en Angleterre. Absolument tous les journaux en ont fait leur une. Alors les célèbres tabloïds, bien sûr, comme le Sun ou le Daily Mirror, avec des photos de Victoria Beckham, l'air un peu paniquée, ses enfants dans les bras, et qui déclare être totalement sous choc. « Je ne comprends pas, dit-elle, qu'on le veuille me faire une chose pareille. » Et puis ce matin, ce sont surtout les premières déclarations de David Beckham. « Je vais protéger ma famille, dit-il, c'est mon rôle de mari et de père. » Des déclarations reprises par les grands quotidiens, puisqu'ici, David et Victoria sont vraiment le couple star sans équivalent en France.
En Angleterre, cet enlèvement avorté devient une affaire d'État. Et rien d'étonnant à cela pour le journaliste sportif anglais Alex Hayes.
C'est un couple qui, d'une certaine façon, ont remplacé un petit peu notre famille royale. C'est-à-dire que c'est un couple qui sont dans les journaux, qui sont dans les magazines, qui sont un petit peu partout et qui, comme je vous dis, d'une certaine façon, représentent un petit peu une nouvelle Angleterre. Et donc, quand on essaie d'enlever Victoria Beckham, ça choque les gens parce qu'elle est très connue et elle est assez populaire et qui est, comme je vous dis, cette nouvelle marque de famille royale moderne, un petit peu.
Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, les mesures prises pour protéger les Beckham ressemblent à celles d'un couple princier.
Eh bien, il y a en tout cas dans le Daily Mirror ce matin des révélations étonnantes à ce sujet. Des révélations selon lesquelles les services secrets pourraient prendre en charge la sécurité des Beckham avec un dispositif réservé jusqu'ici à la reine et au Premier ministre.
Les Beckham ont transformé leur maison en forteresse. La presse la rebaptise Beckingham Palace. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. I'll have to. We'll be right back.
on the dance floor, but you better not kill the groove. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove.
C'était Murder on the Dance Floor de la londonienne Sophie Ellis Bextor, carton de 2002. Ah ben c'est terminé. Comme tous les jours, des bisous pour Guillaume Maury, pour Julien Pichenet et pour Guillaume Vasseau, notre réalisateur. La suite de notre balade dans l'année 2002 dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.